Nous continuons nos investigations avec Marie Lissard qui est ici et un aspect dont plusieurs ont parlé mais sans l'aborder de manière professionnelle, c'est celui de la bibliothèque, de la documentation, puisque Marie Lissard est conservatrice à la Bibliothèque universitaire de Reims, hein, c'est ça. Et dans le cadre de ses études à l'ENSIB, elle a eu l'occasion, en travaillant avec Marianne Pernaud-Bécache, que beaucoup d'entre nous connaissent, de travailler sur le catalogage, enfin la ressource des œuvres en ligne, vue du point de vue de la bibliothèque. Et c'est de ça qu'elle va nous parler. Parce que beaucoup d'entre nous l'ont vu du point de vue de la création ou de l'étude universitaire critique de ces œuvres, mais il y a également des questions de stockage et spécifiquement de bibliothèque. Donc c'est ce dont elle va nous parler.
Voilà, donc mon intervention porte sur la création littéraire sur Internet du point de vue des bibliothèques. Donc moi je parle de littérature électronique. Et c'est dans le cadre d'un travail collectif, nous étions quatre, sous la direction de Marianne Pernoud, que nous avons fait une recherche sur un sujet qui nous avait été proposé, un sujet sur la littérature contemporaine. Et ni mes trois camarades, ni moi-même, n'imaginions que la littérature contemporaine puisse attacher un autre support que le papier, parce qu'en fait il s'agissait de création littéraire en ligne, et donc la découverte a été vraiment totale et passionnante. Donc notre but au cours de ce travail, ça a été de faire connaître la littérature électronique aux professionnels des bibliothèques. Et on a essayé de démontrer l'intérêt d'une telle ressource pour les bibliothèques. On voulait proposer une méthodologie et une valorisation possible. Donc c'est une approche très ample qui se justifie en ce que rien jusque-là ne semblait avoir été écrit au sein de la profession, d'habitude assez prolixe. Donc notre mémoire de recherche s'intitule « Repérage et sélection de sites de littérature contemporaine par une bibliothèque universitaire de lettres et sciences humaines ». Il est consultable en ligne sur le site de l'ENSIB, de la Bibliothèque interuniversitaire de Lyon, il est référencé par, sur le site de Xavier Malbreil, etc. Donc voilà, si je veux réaffirmer l'intérêt de ce travail devant vous, et puis j'espère plus tard devant mes collègues, c'est que la bibliothèque est le lieu par excellence de la médiation. C'est le lieu où s'opère la rencontre entre le livre et le lecteur. Vous changez livre parce que vous voulez, site internet, disque, DVD, CD-ROM, microfiche, il y a encore des microfiches, et lecteur par auditeur, internaute, spectateur, la phrase garde tout son sens. Chaque fois qu'est apparu un nouveau support, la bibliothèque s'en est emparée. Pour être franche, elle ne l'a pas toujours fait avec beaucoup d'enthousiasme. Si on regarde les collections de disques ou de films, elles sont encore extrêmement mal réparties sur le territoire, car ça demande des moyens importants. Ce n'est pas forcément considéré comme le cœur du métier. Je me suis amusée à consulter les premières années du bulletin des bibliothèques de France, justement, la Bible du métier, où on trouve que deux articles qui concernent l'introduction des disques vinyles dans les bibliothèques. Le premier aborde cet objet en tant qu'objet de recherche pour musicologue, et le deuxième traite des aspects techniques de l'introduction du disque. Et dans ce deuxième article, il y a les citations, les propos d'un bibliothécaire anglais que je vais vous citer, je ne résiste pas, donc c'est « La discothèque, après tout, ne sera jamais qu'une activité secondaire de la bibliothèque. La suppression des bibliothèques serait une véritable calamité publique, tandis que la suppression des discothèques ne serait qu'un simple inconvénient. Enfin, l'argent qui leur est consacré serait plus utilement employé à combler les graves déficiences que l'on peut constater dans des services plus essentiels. » Donc on se constate que les disques sont considérés uniquement comme des objets de recherche et pas du tout dans leur aspect de loisir, de divertissement, et que leur légitimité n'est assurée que dans ce but-là. Et d'autre part, ils sont considérés comme mangeurs de budget, de temps et de personnel, et donc annexes. En fait, ça résume assez bien, à 50 ans d'écart, la situation de la création littéraire en ligne dans les bibliothèques. On n'en trouve aucune mention en tant que telle dans les années récentes du bulletin des bibliothèques de France, revue qui est pourtant friande en ressources électroniques. La littérature professionnelle foisonne d'analyses sur la production électronique, mais seule la recherche a le droit de citer. Il n'y a pas de revendication de la littérature électronique dans les discours en tant qu'objet, même si certaines pratiques la prennent déjà plus ou moins en compte dans des répertoires de sites, par exemple. Or, malgré cette absence, si on regarde les missions de notre métier, on est tenu de s'intéresser à cette production parce que les bibliothèques constituent, organisent, enrichissent et exploitent les collections qui peuvent être de toute nature. Donc ça, c'est le décret de 92 qui nous rappelle ces missions. Donc une politique de valorisation de la littérature électronique est tout à fait dans le droit fil de l'action des bibliothèques. La prise en compte de la culture numérique par la bibliothèque paraît être une évolution absolument logique. Mais il faut bien reconnaître que notre rôle de passeur est actuellement bien mal rempli pour ce type de ressources, parce qu'on se trouve en face d'un objet qui est quasiment inconnu de ceux qui sont les médiateurs par excellence. Donc, face à une production qui est inconnue, comment procéder ? Ça a été un petit peu notre interrogation. Comment appréhender un domaine qui est complètement étranger ? Donc, dans notre mémoire, on s'est posé pas mal de questions. Il nous est apparu intéressant de montrer la spécificité de la littérature électronique afin de donner les clés pour la comprendre et les moyens de se l'approprier. Donc pour ça, on a essayé d'élaborer une typologie des œuvres électroniques les plus courantes sur l'Internet. Premier réflexe, procéder selon l'habitude des études littéraires en essayant de distinguer les œuvres électroniques selon leur genre, théâtre, poésie, etc. Mais bien vite, ces critères nous ont paru complètement inadaptés pour notre recherche. Le genre littéraire n'est pas une grille de lecture qui permette de faire, de montrer l'intérêt des œuvres électroniques à un public débutant. Reprendre une grille de lecture qui est propre à la littérature papier revient à engommer la spécificité. Donc ensuite, on a essayé d'opter pour notre voie, on a essayé de s'intéresser à des modes de production représentatifs. Par exemple, de s'intéresser à la forme courte par le biais des journaux intimes ou des récits de voyage. Mais on trouvait que ça ne permettait pas d'envisager la littérature électronique dans sa globalité. Donc on a essayé de mettre en place une autre classification qui rende compte de ces particularités. Donc on a élaboré une typologie qui comporte 6 catégories et qui essaye de prendre en compte l'intégration plus ou moins grande des possibilités techniques à l'œuvre littéraire. Donc en gros, c'est une classification qui s'éloigne progressivement du support papier. D'une part, on se situe par rapport à un point de référence connu, le support papier, dont on s'éloigne petit à petit. D'autre part, les possibilités techniques introduisent des caractéristiques, permettent d'introduire des caractéristiques littéraires à cette création. Donc en parlant avec les uns et les autres, je me suis aperçue que la question de la typologie, j'étais pas la seule à me casser le nez dessus. Et là, j'essaye d'avoir un angle d'approche très pragmatique, qui permettrait à des néophytes de comprendre un petit peu cette production. Donc les 6 catégories, je vais vous les donner ici. D'une part, la littérature traditionnelle, c'est-à-dire premier degré de l'écriture électronique, c'est-à-dire le traitement de texte, simple diffusion d'un texte qui pourrait être imprimé sans rien perdre de son contenu. Dans ce cas-là, la littérature n'est pas questionnée. C'est un objet préétabli, et le problème qui se pose est bien plus éditorial que littéraire. Donc, bien sûr, il y a un contrat de lecture qui est dématérialisé, il y a une facilité de consultation qui est plus ou moins réduite, et il me semble qu'il est important de prendre ce type de production en compte. Car même si cette littérature ne se revendique pas comme électronique, elle appartient bel et bien à la production que l'on peut trouver désormais sur Internet. Et elle est intéressante en ce qu'elle permet d'interroger le modèle d'échange qui est promis sur Internet, donc la diffusion, la reconnaissance des textes, etc. Deuxième catégorie, la littérature hypertextuelle ou littérature du cheminement. Donc avec la technique du lien hypertexte, l'auteur s'éloigne de la narration traditionnelle. Donc, vous savez que ça permet des parcours narratifs à la carte, c'est ce qu'on a vu ce matin, au gré des liens hypertextes, et ça remet forcément en compte la conception, l'idée même de récit et de sa linéarité, et donc sa conception. Ça peut être également utilisé, le lien hypertexte peut être également utilisé en tant que commentaire de poème, de texte, ce qui redonne en quelque sorte vie à la pratique de la glose médiévale. Et en fait, et ça permet des mises en abîme successives. Et le rôle du lecteur est ici important, puisque c'est lui qui décide de son parcours narratif. Troisième catégorie, la littérature générative. Donc, on insère un vocabulaire choisi et une syntaxe dans un programme et informatique. Et la littérature générative permet de faire advenir un texte qui combine les différents champs de vocabulaire déterminés. Ce qui fait qu'à chaque fois, on se trouve face à un texte qui est inédit. Puisque la combinaison multiple de façon automatique permet de faire advenir un nouveau texte. Donc c'est une interrogation toujours sur le langage. Cette littérature permet de montrer l'interrogation sur le langage. Et c'est un moment où la littérature est tellement imbriquée dans la technologie qu'elle semble n'être plus que technologie. On se demande forcément si c'est encore de la littérature. Si on regarde Charabia, on se rend compte que oui, effectivement. Alors après, l'acte de création se déplace, c'est plus forcément, il réside désormais dans la conception même, dans l'idée du générateur, ainsi que dans l'écriture du programme. Quatrième catégorie, la littérature collective. Ce que j'entends par littérature collective, c'est soit une œuvre qui est construite par un groupe préétabli, où chacun prend en charge une partie du récit, soit la littérature interactive comprise dans le sens restreint de collaboration active à une œuvre par un lecteur lambda. Donc cette littérature accorde une place différente en particulier au lecteur, puisque celui-ci a la possibilité de devenir auteur, comme par exemple dans le livre des morts, en apportant sa contribution à la narration. Et du coup, la littérature devient, l'œuvre devient une construction perpétuelle, ou alors pour un récit à plusieurs voix, une œuvre qui ne peut, le temps de son élaboration, s'affranchir de la sphère électronique. Donc, c'est une façon de repenser également la notion d'auteur. Ensuite, la littérature de la mise en scène, c'est-à-dire une littérature recherche une dimension supplémentaire au texte par une mise en page animée, par l'ouverture de fenêtres successives, par l'apparition de pop-up, etc. C'est ce qu'on a vu ce matin dans la démonstration dans la conférence de Xavier avec les poèmes en quatre dimensions, par exemple. Donc l'animation contribue à donner d'un texte une interprétation, une lecture propre à l'auteur. Et donc il y a une interrogation sur la mise en scène des mots, des lettres et la façon dont le texte devient bien plus que simplement du lisible. Enfin, la dernière catégorie se trouve à la frontière entre la littérature et l'art numérique. Donc, à cette frontière, on trouve des œuvres qui confrontent à la fois le son, l'image fixe ou animée, et les mots à la recherche d'un point d'équilibre, en fait, où chaque expression contribue au sens total. On se trouve dans un domaine hybride, entre différentes formes d'expression, et ça dessine en fait un espace flou qu'on peine encore à nommer. Donc moi, ça me rappelle un peu la naissance de l'opéra au XVIIe siècle, qui visait à réunir sous une forme unique la littérature, le théâtre, le chant, la danse. Je vous cite un extrait de l'histoire de l'opéra. Le drama per musica, combinaison de paroles et de musique, allait permettre aux artistes de différentes disciplines de réunir leurs talents pour créer une forme unique et puissante d'expression, susceptible d'affecter un public simultanément sur plusieurs plans. musicale, poétique, émotionnelle. Et du coup, je pensais qu'on pouvait peut-être appeler cette catégorie le net opéra, en fait, faute de trouver d'autres termes satisfaisants, pour essayer de définir cette création qui demande différentes capacités, savoir manier le, savoir écrire, et également savoir mettre en scène le texte, ajouter du, être maîtriser le, la vidéo, etc. Donc voici les six catégories, et c'est vraiment une typologie de circonstances en fait, qui permet de faire émerger une littérature autonome et qui essaye de montrer de façon progressive comment la littérature confrontée à la technologie doit réinventer ses règles et comment les questions de narration, auteur, temps, lecteur, texte sont à reconsidérer au regard des nouvelles contraintes et des nouvelles possibilités. Évidemment, la plupart de ces œuvres utilisent simultanément différents types, différents procédés. Et certaines en privilégient un hein, tout particulièrement. Et du coup, ça fait émerger une littérature électronique qui est assez déroutante pour nous, puisque on a beaucoup de mal à l'appréhender, à appréhender les œuvres dans leur totalité. En fait, ce qui est troublant, c'est que ce qu'on n'a pas à faire, comme traditionnellement, à une unité bibliographique dans toute sa stabilité et ses limites reconnues. Donc la question qui se pose, c'est comment traiter un tel objet, comment l'intégrer aux ressources qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque de façon fiable. La littérature électronique est loin de correspondre en fait à nos critères bibliothéconomiques. Elle est plus difficile encore à baliser que la littérature électronique scientifique, puisque celle-ci valorise peut-être plus les notions de date, d'auteur, de référence stable à une tutelle et la pérennité des documents. Donc il est parfois difficile d'accéder à ces informations qui sont jugées indispensables pour nous, comme le titre, l'auteur et les co-auteurs, ainsi que leurs fonctions, la description matérielle de l'œuvre, les différentes mises à jour, les différentes versions, etc. On a affaire à un objet qui ne se laisse pas facilement manipuler. Et du coup, c'est pas toujours évident de valoriser de telles œuvres. Donc, cette valorisation, une fois qu'on a essayé de démontrer l'intérêt d'un tel objet, peut se faire en plusieurs étapes. Donc, d'une part, il faut élaborer une politique documentaire qui intègre les œuvres électroniques à la politique générale de l'établissement. Donc, évidemment, selon le type de public qui fréquente la bibliothèque, etc. Donc, du coup, les critères de sélection des œuvres électroniques sont à élaborer. Ils ne correspondent pas aux critères de sélection qui sont habituellement retenus pour sélectionner les ressources électroniques scientifiques. Donc, on trouve pas mal de grilles d'évaluation des ressources électroniques sur Internet, mais donc il faut l'adapter à la création littéraire. En ayant d'autres critères, et en particulier le contenu de l'œuvre, la navigation, le design, etc. Voilà. Donc ensuite, il faut, une fois qu'on a cette politique, il faut trouver les œuvres. Donc comment peut-on trouver ce genre d'œuvres littéraires qui sont disséminées ? Donc il y a des points d'accroche, évidemment. Dans un premier temps, il y a des sites qui donnent directement accès aux sites de création, comme Labyrinthe de Christine Genin, comme ZaziWeb, par exemple, qui permettent d'y accéder. Cette approche peut être complétée par l'interrogation des répertoires de sites. Par exemple, si vous allez dans le répertoire de sites de Yahoo, dans la rubrique Art et Culture, vous pouvez accéder ensuite à littérature, puis à littérature électronique, littérature interactive, mais on passe à côté de certaines œuvres qui sont référencées dans d'autres rubriques. Donc c'est loin d'être exhaustif. Il y a également les listes de diffusion. Donc une fois qu'on connaît un petit peu la production, on peut s'intéresser aux listes de diffusion comme écriture, où sont présentées et commentées par les colistiers les œuvres qui viennent de paraître. Ce qui permet une réactivité assez forte. Donc, une fois qu'on a trouvé ces œuvres, il faut résoudre les questions techniques. Il faut quand même que, si on nous donne accès, on ait des capacités suffisantes pour permettre la consultation sur place. Il faut qu'on ait tout simplement la possibilité de mettre le son, la possibilité éventuellement de conserver les sites, de conserver les versions successives, etc. Il y a également des questions d'ordre juridique, mais je les évacue honteusement parce que je ne suis pas tout à fait capable de vous en parler, donc on verra ça vendredi matin. Et enfin, comment valoriser ce qu'on a donc trouvé ? On peut penser à différentes façons de procéder. D'une part, les répertoires de sites, mais on peut se demander est-ce que c'est vraiment intéressant que chaque bibliothèque dans son coin fasse un répertoire de sites qui pointe vers les mêmes ressources ? C'est pas forcément évident. Une approche peut-être sans doute plus intéressante, c'est d'avoir des ordinateurs dédiés dans la bibliothèque avec un accompagnement, de façon à donner accès directement aux œuvres et à ce que les lecteurs puissent accéder de façon consulter de façon extrêmement simple et rapide les œuvres. On peut également penser à des événements sur le site internet ou dans la bibliothèque, des expositions, des conférences. Donc à ce titre, je signale que dans l'année qui vient à Lyon, à partir de septembre-octobre 2005, va commencer un cycle de rencontres autour de la littérature électronique. Donc c'est un partenariat entre la Bibliothèque interuniversitaire de Lyon, où travaille Marianne Pernou, la Bibliothèque municipale, où travaille Carole Delis, et Zazie Web avec Isabelle Lavigne. Et donc ça mêle à la fois lecture publique, lecture universitaire et site de référence. C'est intitulé « Un auteur, une œuvre numérique ». Et le principe, c'est que chaque auteur vient faire une présentation de son travail qui est axée autour d'une problématique, suivie d'un atelier pratique. Voilà, et la présentation se fait en début d'après-midi à la bibliothèque interuniversitaire et en fin de journée à la bibliothèque municipale, donc pour deux publics un peu différents. Et cette formule va être testée au cours de l'année 2005-2006 en espérant qu'elle se poursuive au-delà. Une autre façon de valoriser, c'est d'héberger carrément un site de création. Ça peut être intéressant au cas par cas, puisque ça permet d'aider techniquement, donc de soulager financièrement l'auteur du site. Donc c'est intéressant, c'est un peu ce qui se passe pour Zazie Web, dont le serveur était hébergé par le site de l'ENSIB. Mais bon, c'est un peu plus délicat à mettre en place. Et enfin, la dernière façon, c'est l'acquisition de sites, mais je ne connais pas de bibliothèque qui fasse ça actuellement. Voilà, donc ce qui ressort de tout ça, c'est que dès qu'on parle de littérature électronique, on se heurte à la fois au problème d'explication de l'intérêt de cet objet, au problème de repérage et au problème de validation des œuvres. En somme, en fait, on cherche un ou des points de passage reconnus pour accéder à cette production. Et les modalités à la fois d'explication, repérage et validation posent encore beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a juste des débuts de réponse. Les bibliothèques peuvent être un de ces points de passage. Elles ont un rôle à jouer dans la connaissance, la valorisation et pourquoi pas l'aide à la création, en se positionnant comme en quelque sorte les nouveaux scriptoria des temps modernes. Et la reconnaissance de la littérature électronique comme une part identifiée de l'art numérique doit compter avec notre profession. En fait, il s'agit d'un double mouvement qui vise autant à faire entrer la littérature électronique dans les bibliothèques pour en assurer une diffusion large, amplifiée, qu'inversement à faire entrer les bibliothèques dans la totalité de la culture numérique et pour leur permettre de remplir au mieux leur mission.
Merci beaucoup de cet exposé très complet et suffisamment concis pour nous laisser beaucoup de temps pour poser des questions, pour vous poser des questions là-dessus. Donc voilà le jeune représentant d'une corporation qui depuis 5000 ans s'occupe de classer, de cataloguer nos livres et qui se demande comment mettre des livres de sable sur les étagères virtuelles des bibliothèques du futur. Alors, s'il y a des questions, Michel.
En attendant, parlé déjà des bibliothèques avant ici, et il me semble qu'on a dit que avant la, dans les fonctions premières de la bibliothèque, avant la fonction de consultation, de permettre la, la consultation, il y a la fonction de conservation. Et il me semble que dans le cas d'Internet, la consultation ou la diffusion, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la conservation. Et en particulier dans les sites de création, les sites marginaux, individuels, etc., c'est le programme de l'Internet, que les choses disparaissent. Et donc, il me semble que la fonction première des bibliothèques dans ce domaine-là, c'est la conservation de ce qui se fait. Et à ce moment-là, il me semble que ça va se passer à un niveau national, où quelque part, on aspire les sites de création et on les garde sur les disques durs. Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
Il y a des travaux qui sont en cours à la Bibliothèque nationale de France pour essayer de mettre en place un dépôt légal du web, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose de systématique. C'est pas encore quelque chose de bien rodé. Donc, voilà, en plus, donc...
On peut aspirer à la date de
jour. Voilà, on peut aspirer
à un certain nombre de sites, mais ça ne donnera qu'une image de ces sites au jour d'aujourd'hui.
C'est ça, donc il faut le refaire régulièrement.
Donc il y a, par exemple, sur le site d'Anne-Cécile Brandenbourger, on trouve les différentes versions de son œuvre donc, en 97, 98, etc. Donc c'est elle qui a pris la peine de conserver et mettre à disposition les différentes versions successives de son œuvre. Mais c'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas une question réglée. Alors ensuite, ça peut passer par des actions plus ponctuelles. Si on se dirige vers une acquisition réelle du site, d'un site par les bibliothèques, là on peut penser à conserver différentes versions d'un site.
Mais vous voulez dire acquisition d'un site?
Eh bien, non pas renvoyer simplement vers une adresse électronique, renvoyer le lecteur vers une adresse électronique, mais conserver sur le serveur même de la bibliothèque une ressource. Voilà.
Mais pour ça peut pas se faire au niveau d'une bibliothèque, ça peut se faire au niveau d'un...
Voilà, il faut que ça soit un plan de grande envergure.
Oui, Philippe de Joncœur, ensuite Thomas, et puis Françoise.
En fait, ma question était assez similaire, mais c'est quand même une préoccupation intéressante que celle des différents états d'un site. Je pense que quand on regarde, il y a un site américain qui s'appelle archive.org, qui donne ne serait-ce que, je dirais, la page d'accueil des différents sites qui ont perduré dans le temps. Par exemple, celle de rolling.net a énormément évolué entre celle d'aujourd'hui et il y a 6 ou 7 ans. Sont des évolutions qui sont très très intéressantes. Ce site de rolling.net, sa vision d'aujourd'hui ne correspond plus du tout à ce qu'elle véhiculait il y a 2 ou 3 ans, mais ce qu'elle véhiculait il y a 2 ou 3 ans était malgré tout encore intéressant et l'est encore aujourd'hui. De ça, il n'y a plus trace véritablement.
Donc il donne également accès sur le site des anciennes
versions. C'est simplement que la restructuration, dans les sites, il y a des phases de restructuration qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour pouvoir englober de nouvelles choses, et que ces restructurations, en fait, ne sont archivées nulle part, parce que c'est inarchivable.
Parce qu'en plus,
même si, par exemple, votre bibliothèque voulait, la vôtre ou une bibliothèque voulait archiver un site, ou une dizaine de sites, elle ne saurait jamais véritablement quand ces sites sont en train d'évoluer. Donc elles ne savent pas quand est-ce que les photos sont à prendre, en fait. Donc là oui, je crois
que... Oui, puis c'est une question qui est... Enfin, si on archive à un moment précis, en plus, ça veut dire que... Enfin, si le site n'évolue plus, ça pose d'autres problèmes.
En revanche, contrairement à ce que vous pensais. Je ne pense pas que la fonction de la bibliothèque soit uniquement une mission de conservation. Les bibliothèques ont beaucoup évolué. Et le fait qu'effectivement, elles aient, comme je dis, la fonction de faire rencontrer le lecteur et la lecture, fait qu'effectivement, avec la littérature contemporaine électronique sur Internet, il y a, à mon avis, une fonction pédagogique que la bibliothèque pourrait remplir, mais je pense que c'est une évolution du métier, par contre.
Nous, à Paris, la bibliothèque, c'est très important pour la bibliothèque.
Et pour revenir aux questions d'archivage...
Ça vient du pédagogique, c'est plutôt... Mmh. Enfin, c'est comme quelque chose qui se grefferait sur ce qui a toujours été pour l'instant. Quoi.
Mais tant que ce ne sont pas des objets encore bien identifiés et connus, on est obligé d'avoir ce rôle, il me semble. Et pour revenir au problème d'archivage, c'est vrai qu'en ce qui concerne les différentes versions, pour l'instant, c'est surtout soumis à la volonté du webmestre, enfin de l'auteur du site.
Oui, il y en a qui le
font. Il y en a qui le font, oui. Mais c'est pas systématique.
Des ordinateurs et des logiciels, des systèmes qui posent des problèmes. Il y a des vieux trucs qui ne sont plus consultables.
On passe à une question, si vous avez répondu complètement à une question de Thomas.
C'est lié en fait aux deux questions, et j'ai bien aimé la question avec le vinyle, mais pour la question de l'archivage, nos bibliothécaires, ils ont ce problème que dans le passé, quand on était abonné à une revue, on avait une revue physique. Mm-hmm. Et maintenant, on est abonné à des revues électroniques. Et le jour où on s'arrête l'abonnement, on n'a plus de traces. Oui. Alors, c'est ma première question, si vous avez des problèmes parallèles avec qu'est-ce qu'on fait pour le paiement des revues électroniques quand ça s'arrête. Et la deuxième, c'est lié avec cette question de l'évolution de votre métier que je trouve est énorme, parce qu'il y a un article, j'allais en parler demain, mais c'est l'occasion maintenant. Au Texas, ils sont en train de vider les étagères pour faire de la place pour les terminaux. Alors, est-ce que vous voyez, où est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier de bibliothécaire?
Alors, pour répondre à la première question, on est confronté au même problème en ce qui concerne les revues qui changent de support. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'abonnement, si on est obligé d'arrêter nos abonnements électroniques faute de budget suffisant, et ça va être de plus en plus le cas vu l'augmentation des coûts des périodiques, la majorité des collections disparaissent. Donc, il y a des tentatives pour essayer de laisser accessible la période qui a été payée, mais c'est pas forcément compris actuellement. Voilà. Et donc, pour la deuxième question, c'était sur...
La disparition des étagères de livres pour les remplacer par les terminaux qui commencent à se faire dans le sud des États-Unis.
Terminaux qui vieillissent rapidement.
Moi, je pense que la bibliothèque a toujours sa fonction de lieu du livre, même si l'ordinateur il prend une place extrêmement importante. Mais...
peut-être pas comme au Texas.
On peut passer à la question de François Jean.
Oui, donc la question qui me venait à l'esprit articule le double aspect de diffusion et de conservation. Parce que si on peut diffuser et communiquer des livres actuellement, c'est bien parce qu'il y a le dépôt légal qui permet de faire entrer les livres, par exemple à la Bibliothèque nationale. Et bon, dans les autres bibliothèques, je suis d'accord. Enfin, il y a au départ la question du dépôt légal qui permet au moins à une bibliothèque de France d'avoir accès à tout ce qui s'édite. Mais ça repose sur quelque chose qui paraît évident et pourtant qui ne l'est pas, c'est le fait qu'on va demander un dépôt à un numéro ISBN, etc. Mais par exemple, j'ai un exemple personnel qui est celui de mon mari, Jean-Pierre Baudillon, il a animé pendant une vingtaine d'années une revue de poésie, mais qui n'est trouvable nulle part, dans aucune bibliothèque, et surtout pas à la nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu passer par le dépôt légal, avoir un numéro, etc. Pourquoi? Parce qu'elle l'embêtait, c'était contraignant, etc. Peu importe. Donc, je dirais actuellement, est-ce que la démarche est pour pouvoir constituer rapidement un répertoire de biens ne serait pas de demander, ça peut paraître fou, mais après tout, de demander aux personnes qui souhaitent évidemment une plus grande diffusion de leur site, de leur littérature numérique, une forme de dépôt, enfin de je ne sais pas comment faire, enfin, l'équivalent du dépôt légal finalement, parce que sinon, évidemment, on ne pourra jamais retracer tout ce qui s'écrit à droite, à gauche, sur des sites, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche volontaire qui permettrait en un endroit d'envoyer l'adresse de son site, je ne sais pas. Parce que sinon, c'est, évidemment, c'est impossible de tracer tout ce qui existe.
A priori, c'est le rôle de la Bibliothèque nationale qui est de fédérer ce genre de ouais. choses, mais même techniquement, elle n'en a pas les moyens, c'est ça aussi le problème.
C'est-à-dire que si tous les gens qui écrivent souhaitent que ça soit connu et qu'on puisse retrouver leur adresse, à ce moment-là, ils envoient leur adresse, ils disent de quoi il s'agit, et à ce moment-là, n'importe qui peut évidemment y avoir accès, sinon on ne peut pas savoir.
Oui, mais c'est pas si simple. Pour avoir essayé, c'est pas si simple.
Oui,
non. Ça pose des difficultés techniques qui sont
déjà savoir ce qu'on va.
Qui ne sont pas solvables pour le moment par les gens qui s'occupent de ce projet à la Bibliothèque nationale.
Oui, il faudrait convaincre, effectivement.
C'est pas qu'une question de conviction, c'est aussi une question de moyens techniques et de savoir ce qu'on va réellement archiver. C'est vrai qu'ils y travaillent depuis pas mal d'années, ils n'arrivent vraiment pas encore à résoudre ce problème.
Mais dans les commissions papier, là, rien n'archive tout, les bouquins arrivent, les polygames, là, ça s'en passe, mais tout est archivé.
Parce qu'il y a des éditeurs. Ce sont les éditeurs qui font le dépôt légal, ce ne sont pas les auteurs.
Non.
Pour l'Internet, on ne voit pas qui joue le rôle de l'éditeur.
Avec la fermeture du CICV, par exemple, on a vu disparaître du web des œuvres, dont certaines grandes vocales étaient quand même référencées comme des œuvres importantes. Donc peut-être qu'il y a des gens qui savent où elles sont, mais elles ont disparu d'un coup. Et sur le site de la Poste, oui, ben oui, justement. Et si on travaille, quand le CICV a fermé, il n'y a plus rien de nouveau dans la
Moi, j'ai envie de poser deux questions un peu provocatrices, mais qui provoquent au débat, surtout. C'est d'une part, est-ce qu'il faut tout garder dans une bibliothèque? Parce que tant qu'on est dans une édition du papier imprimé en particulier, c'est encore envisageable. Ça l'est de moins en moins, hein, le nombre d'éditions chaque année est de plus en plus important, d'autant plus que la bibliothèque s'est mise en tête, vous le disiez, de stocker d'autres documents encore que le livre. Mais la bibliothèque fait déjà un choix, c'est-à-dire tout ce qui arrive par exemple comme publicité dans nos boîtes aux lettres n'est pas archivé par la bibliothèque. Il y a pourtant là des documents sans doute très intéressants pour les chercheurs de l'avenir, mais tout n'est pas conservé. Avec la graphosphère qui s'étend aux limites du web, est-ce qu'il faut tout garder? C'est-à-dire, est-ce que tous les blogs sont susceptibles d'être conservés? Est-ce que tout ce qui s'écrit sur le web doit être gardé? Donc, si en répondant, et je tout simplement, la possibilité, c'est une question de technique, comme vous le dites, qui fait qu'on n'a pas la possibilité de tout garder, la bibliothèque va faire ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va s'ériger en sélectionneur de ce qui doit être conservé pour la postérité et ce qui ne doit pas être conservé, ce qui est une responsabilité très lourde. Deuxième question, on aime dire, et il y a eu par exemple ce fameux colloque en l'an 2000 à New York, je crois, avec Umberto Eco sur l'avenir du livre. Et on aime dire depuis, ne vous inquiétez pas, le livre a son avenir et à côté il y a... Mais est-ce que c'est vrai? Je veux dire par là, si tous les livres de cette bibliothèque tiennent sur un DVD, est-ce que je vais vraiment, et que j'ai un dispositif de lecture aussi commode que ceux dont parlait Michel ce matin, est-ce que je vais vraiment aller ouvrir les livres papier? Est-ce que je vais avoir besoin de recourir aux livres papier, sauf par traditionnalisme, nostalgie, etc., une fois que j'aurai leur équivalent textuel sur un support électronique de bonne qualité?
Alors, pour revenir au premier point sur la bibliothèque comme diffuseur et comme... pas comme éditeur, oui, mais comme garant de la qualité, en fait... C'est très très ennuyeux parce que à la fois nous en tant que bibliothécaires on a envie d'assurer la diffusion des œuvres qui nous paraissent les œuvres de plus grande qualité et en même temps c'est pas forcément les plus représentatives de ce qui se produit. Donc c'est vrai que au cours de... au cours de notre recherche, on est quand même tombé sur un panel très important de productions absolument inintéressantes et qui pourtant constitue une réalité de l'Internet. Donc du coup, c'est quand même très, très ennuyeux si on se retrouve investi de ce rôle. Ben, oui, en fait, on a besoin, comme on n'a plus la présence de l'éditeur traditionnel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... alors, ça peut être plusieurs types de personnes. Ça peut être... les bibliothèques peuvent être... peuvent constituer ce point de passage qui permet de valoriser certaines œuvres. Mais c'est vrai que c'est embêtant, en fait, qui est que nous.
Michel Lemaire voulait intervenir et puis Henri Béard.
À propos de votre intervention sur le remplacement des livres par des DVD, vous laissez l'erreur, je vais raconter quelque chose que vous trouverez à la FNAC, j'imagine, dans la catégorie des jeux électroniques, mais qui en fait est un roman de science-fiction. Ça s'appelle The Moment of Silence, en français aussi, c'est pas The Moment of Silence. Et ça se passe dans une cinquantaine d'années. Et puis il y a un gouvernement mondial qui a demandé à tout le monde d'envoyer ses livres, de se débarrasser de ses livres, et en disant aux citoyens qu'on va mettre tout le contenu des livres en ligne, et que dorénavant, donc, vous n'avez plus besoin de lire. Alors tout bon citoyen fait cela, et si on ne le fait pas, on se fait arrêter par la police, et on a une contravention, il n'y a plus de livres. Sauf que le gouvernement mondial est devenu une dictature, et ne met en ligne que ce qu'il veut. Quand on a le livre papier dans sa bibliothèque, quand on a la copie CD-ROM dans sa bibliothèque, on l'a. Si on se fie uniquement à ce qui est en ligne et à ce que le système veut les mettre en ligne, à ce moment-là, on le sait tout.
Henri Béard ?
Oui, la question est intéressante et matière à débat, mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans la notion de bibliothèque. L'INA s'est posé le même problème pour les émissions de télévision. Qu'est-ce qu'on fait de la production télévisuelle quotidienne sur les multiples chaînes françaises? Je parle de production en France, déposée en France, etc. Alors, il y a effectivement des producteurs, il y a quand même des éléments plus tangibles. Mais je pense que il y a une décision qui a été prise par l'INA même, enfin par le conseil de pilotage, je ne sais plus quoi, qui consiste à faire du décimage, c'est-à-dire un élément sur 10.
Mais c'est un élément sur 10 qui se répète de façon quotidienne, hebdomadaire.
Il y a pour les journaux parlés, les journaux télévisuels, et aussi pour un certain nombre de productions, des jeux aussi. Il faut qu'on ait une vision de ce qu'était la société à telle date.
C'est vrai que pour les œuvres électroniques, du coup, c'est difficile d'établir un échantillon.
C'est le même problème qui se pose. Il ne faut pas le fermer seulement sur la bibliothèque, mais d'ouvrir à l'ensemble de toute la production. On veut garder mémoire de l'activité humaine.
Il y a des demandes de parole. Constance d'abord, et puis ensuite Gérard.
Oui, pour réagir à ce que disait Gérard, le problème de l'INA, c'est qu'une fois que le texte est archivé, il est consultable moyennant une somme assez considérable à la minute. Je crois que c'est une centaine d'euros par minute. Et par conséquent, même les auteurs n'ont plus accès à leur propre cassette ou fichier vidéo. Donc, ils ne peuvent plus transformer l'œuvre en devenir. C'est la musique, c'est ce qu'ils ont plus le logiciel, c'est qu'ils retournent devant l'archivage énormément. Enfin, et on comprend les versements qui viennent, étant donné le coût que doit engendrer un tel archivage. Mais ça devient très compliqué à consulter.
Je voulais dire, il est très difficile de savoir ce qui sera important. Il y a des chercheuses qui ont voulu faire un travail, dans des études de genre, sur la pornographie au ras des pâquerettes. Elles se sont pointées à la Bibliothèque nationale en disant, oh, ben non, on les reçoit, mais on les enregistre pas, on les répertorie pas, ça a fini dans les bureaux. Et bien maintenant, il faut que ce soit des documents qui sont importants socialement. Et on les a pas.
Oui, donc on tombe toujours sur l'idée de l'échantillon, sur quoi on base notre échantillon, c'est...